Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition Géopolitique dont nous vous recommandons l'abonnement dans votre application favorite de podcast. À bientôt 100 jours de la présidentielle, critiqué pour sa gestion du coronavirus, Donald Trump a tenté cette semaine de reprendre la main en reconnaissant la gravité de la crise sanitaire. À la Maison Blanche, le président a renoué pour la première fois depuis la fin du mois d'avril avec les conférences de presse sur la Covid-19 appelées à redevenir plus régulières, comme au plus fort de la pandémie. Les États-Unis, après avoir connu une amélioration vers la fin du printemps, voient depuis plusieurs semaines l'épidémie repartir à la hausse, notamment dans le sud et l'ouest du pays. C'est dans ce contexte que la campagne pour la présidentielle de novembre prochain se déroule de la manière la plus atypique. Après un premier meeting raté du candidat Trump en juin à Tulsa, dans l'Oklahoma, finit désormais les grandes réunions publiques. La Covid-19, c'est plus qu'invité dans la vie politique et économique américaine et, selon toute attente, devrait influer sur les choix des électeurs le 3 novembre prochain. Une perspective qui inquiète de plus en plus les républicains dans la mesure où Donald Trump continue de payer cher sa gestion de la crise avec un taux d'approbation de sa politique générale ne dépassant pas 39%. La crainte des républicains est de voir le président américain entraîner dans sa chute les candidats aux législatives. Le parti qui n'est pas majoritaire à la Chambre des représentants est désormais moins assuré que jamais de garder le contrôle du Sénat, lieu de pouvoir stratégique, la Chambre haute décidant des nominations, notamment à la Cour suprême. La Maison Blanche a-t-elle perdu pied ? Donald Trump est-il définitivement dépassé ou des rebondissements peuvent-ils encore se produire ? C'est ce que nous allons voir avec nos invités. Par téléphone, Philippe Golub, professeur de relations internationales à l'Université américaine de Paris. Bonjour.
Bonjour.
Et Pierre Mélandry, historien et professeur des universités, bonjour.
Bonjour.
Le ciel s'est considérablement assombri pour Donald Trump. Le président voit s'évaporer les uns après les autres ses arguments de campagne. L'économie qu'il vantait comme la meilleure de l'histoire et dont il annonçait la reprise rapide après l'épidémie est en pleine récession et le chômage garde des proportions historiques. La pandémie touche dorénavant de plein fouet les États à majorité républicaine sur lesquels il pensait pouvoir compter lors de la présidentielle de novembre, en particulier la Floride, le Texas, l'Arizona. Du pain béni pour les démocrates. Les sondages donnent à Joe Biden, qui pourtant peine à donner un élan médiatique à sa campagne, une avance de plus de 10 points. Étrange popularité que celle de Joe Biden, qui semble surtout bénéficier de son absence et n'offre pas autant de prise qu'Hillary Clinton aux moqueries et aux attaques de son adversaire républicain. Quel est votre regard à chacun sur la campagne à ce jour, Philippe Golub ?
Alors effectivement, le président sortant est en chute assez régulière et forte dans les sondages et dans les mesures de popularité générale, c'est-à-dire sa cote d'impopularité a atteint des sommets depuis le début de sa présidence, 56% de personnes qui sont insatisfaites de la conduite générale du pays par le président. Mais en même temps, il faut être prudent puisque au même moment, pendant la campagne présidentielle en 2016 avec Hillary Clinton avait aussi, elle aussi, une avance assez considérable sur Donald Trump. Alors la faiblesse structurelle de Trump aujourd'hui, il y en a plusieurs, dont d'abord la gestion absolument calamiteuse de la crise sanitaire américaine qui s'intensifie de jour en jour avec des variations selon les États, avec sa gestion tout aussi calamiteuse des questions économiques liées à la gestion du virus, la difficulté extrême dans laquelle se trouvent les républicains à mettre en œuvre des programmes de relance qui permettraient à l'économie de façon soutenable à se maintenir dans le temps. Je pense que c'est une très mauvaise idée de la part du président de relancer ses conférences de presse qui étaient un point où il a chuté fortement dans les sondages. Alors effectivement, il est en chute forte, régulière. Sa base essentielle, cependant, ne se restreint pas. Donc il reste encore quelques mois de campagne très dure dans lequel on verra des confrontations plus directes entre Biden et Trump. Et à ce moment-là, on verra plus clairement quelle sera la direction de la campagne à ce moment-là.
Pierre Mélandry.
Oui, écoutez, d'abord, je souscris totalement à la prudence qu'a embrassé Philippe Golub. À 3 mois du scrutin, On ne saurait être trop péremptoire dans les pronostics. Trois mois, c'est une éternité en politique, surtout dans une période aussi complexe et aussi incertaine que celle que nous vivons. Ceci dit, moi, ce qui me marque quand même, c'est le renversement qui s'est produit entre février, où au fond, Biden n'avait que 2 points d'avance dans les sondages nationaux et où une pluralité d'Américains très nette pensait que Trump serait réélu sans problème. Et aujourd'hui, où l'avance de Biden dans certains sondages est de l'ordre de 15 points et en tout cas de 11 chez les électeurs qui se disent sûrs d'aller voter le 3 novembre. Dès lors, je crois que la question est celle qui a déjà été évoquée, c'est-à-dire est-ce que ces sondages traduisent une phase conjoncturelle, un peu comme ça avait été le cas pour Hillary Clinton, au fond où Trump a accumulé une série de mauvaises passes qui l'ont fait plonger dans les sondages, tandis que Biden, gardant un profil bas, a pu en quelque sorte profiter de cette chute de Trump. Ou est-ce que ces sondages traduisent quelque chose de plus fondamental, un renversement dans la dynamique politique, dans la mesure où, en exacerbant les inégalités profondes, tant au niveau économique que racial, en exposant les déficiences du système de santé, l'accumulation de la crise sanitaire, de la crise économique qui en a été la conséquence et de la crise raciale qui a fait suite au meurtre de George Floyd, toute cette accumulation a peut-être délégitimé l'ordre ancien et accrédité l'idée que l'impératif, comme Biden commence à le dire, n'est plus de restaurer la normale parce que la normale ne suffisait pas. Bref, est-ce que l'on ne va pas dans une direction qui verrait non seulement le pays sortir le sortant, mais embrasser une nouvelle orientation de la vie politique ? Autrement dit, est-ce qu'on est face à une élection, et ça reste absolument possible, du style 2004, où en dépit d'un bilan contestable, le président réussira malgré tout, à travers ses attaques ad hominem, à l'emporter à l'ultime moment le 3 novembre, ou est-ce que le scénario serait plutôt celui de 1980, où une série de circonstances donne tout d'un coup une crédibilité à toutes sortes de réformes qui étaient en gestation au sein du Parti démocrate, ralliant ainsi une opinion jusqu'ici plutôt réticente. Je crois que c'est la question qu'il faut se poser, en même temps que, et vous l'avez parfaitement dit, la question qu'est-ce qui sera possible, en particulier quelles seront les majorités à la Chambre ? Beaucoup pensent quand même que les démocrates n'auront aucun mal à y conserver le contrôle, mais surtout, et c'est essentiel, on pourra y revenir, au Sénat.
La question du Sénat, bien sûr. Alors, beaucoup de choses qui ont été évoquées et qui me donnent des ouvertures de pistes, à commencer par ce que vous évoquiez, Philippe Golub, sur la mauvaise idée que cette reprise par Donald Trump de ses conférences de presse, qui ne seront peut-être pas quotidiennes, mais en tout cas beaucoup plus régulières après avoir été interrompues. Il est vrai que cela, c'est du grain à moudre d'une certaine manière pour les opposants de Donald Trump. Alors, vous évoquiez les faiblesses du président américain, la question des atouts peut-être maintenant de Biden, qui voit se rallier à sa cause des républicains qui sont finalement un peu les rebelles du parti républicain, avec ces groupes qui se sont créés, je pense en particulier le Lincoln Project, en hommage donc au président qui a mis fin à la division du pays après la guerre civile. Ce Lincoln Project, il a été créé le 17 décembre 2019 par un groupe de stratèges du Parti républicain, conservateur traditionnel, qui ne se reconnaissent pas finalement dans la personnalité singulière de Donald Trump et considèrent comme un devoir moral de s'opposer à lui. Qu'est-ce qu'il faut penser de ce mouvement, Philippe Golub, et qu'est-ce que cela veut dire pour le Parti républicain et pour le Parti démocrate également ?
Alors la grande surprise évidemment de la présidente Donald Trump, c'est qu'il a réussi en relativement peu de temps à asseoir son hégémonie politique au sein d'un parti républicain qui avait des orientations assez différentes au plan de la politique internationale et de sa manière de gouverner en général. Les éléments élitaires du parti républicain ont toujours été très fortement opposés à Donald Trump et au cours des l'année passée, Donald Trump avait réussi à amadouer, à l'essentiel, ou à terroriser.
Oui, c'est ce que j'allais dire.
Dans certains cas, un très grand nombre de ces éléments au sein du Sénat américain et ailleurs. Les différents groupements républicains qui s'opposent ouvertement aujourd'hui à Donald Trump, que ce soit le Lincoln Project ou que ce soit les néoconservateurs qui s'étaient ralliés autour de George W. Bush pendant la guerre en Irak, l'invasion de l'Irak en 2003, elles sont des éléments élitaires. Ils ne représentent pas du tout la base du parti républicain. Leur influence à la fois morale et politique dans l'ensemble du pays est relativement faible, car leur capacité de mobilisation politique est faible, étant des éléments élitaires. Évidemment, leur opposition suggère qu'au sein du parti républicain, il y a des traquements importants. La véritable question qui va se poser au sein de ce parti, c'est les oppositions éventuelles qui vont venir au sein de la majorité sénatoriale, qui craint pour de très bonnes raisons pour son avenir en cas de naufrage du président lors des élections en novembre. C'est là où on verra si oui ou non il y a aujourd'hui un traquement plus important, plus structurel au sein du Parti républicain. Pour l'instant, on ne le voit pas. Pour l'instant, Donald Trump conserve son ascendance sur le Sénat américain, sur les républicains dans le Sénat. Pour l'essentiel, il y a quelques voix dissidentes, mais c'était le cas il y a quelques années. Il conserve son ascendant sur la base politique du Parti républicain et il représente une menace constante pour tous ceux qui, au niveau de leur présence électorale, se constitueraient contre lui. Il peut toujours mobiliser ses troupes extrêmement radicalisées à la base contre des candidats qui se seraient exprimés contre lui. Donc, ce qui est à noter, c'est que cet élément élitaire républicain qui soutient Donald Trump aujourd'hui et qui se rallie à Biden représente un problème pour la base progressiste aussi du Parti démocrate, parce que le Parti démocrate aujourd'hui est essentiellement animé dans sa dynamique politique électorale par une base jeune, progressiste, clairement de gauche, qui ne correspond aucunement à l'idéologie de ces républicains qui se reconvertissent à Biden aujourd'hui. Et si Biden cherche à trouver une voie centriste pour plaire à ces républicains, il va s'aligner une partie importante de sa propre base électorale.
Alors, Pierre Mélandry, ce Lincoln Project ou ce que l'on appelle les Never Trumpers, ça veut dire jamais trumpiste, c'est un cadeau empoisonné pour Joe Biden ?
Oui, mais je pense quand même qu'il en est conscient. Et actuellement, quand même, Biden cherche à établir des ponts, comme on pourrait dire, avec sa base progressiste. Et on a vu récemment des projets sortir qui montrent qu'il cherche à se poser en intermédiaire, en quelque sorte, entre ces healing democrats que l'on avait vu surgir d'un côté durant les primaires et les fighting democrats. Alors, on l'a vu en particulier sur la question écologique, où il se démarque très fortement du président. On pourra bien sûr y revenir, et également sur la question du Covid. Et c'est peut-être là où il y a une légère différence quand même avec même les élus républicains. Il est certain que Philippe a tout à fait raison de dire que la base ne bouge pas d'un pouce et que donc Trump peut compter sur elle. Les élus républicains ont besoin, malgré tout, pour retrouver leur siège, d'avoir un peu plus que la base de Trump, qui est toujours autour, on va dire, de 39-40%. Et les problèmes posés par la gestion par Trump de la pandémie font que certains d'entre eux commencent à s'inquiéter. On a appris qu'il y avait des conférences téléphoniques nocturnes entre gouverneurs qui se demandent comment contourner les directives de Trump sur la Covid sans pour autant, évidemment, et là je rejoins Gollum, paraître affronter directement le président, c'est-à-dire comment tenir compte de l'opinion dans leur État qui rejette les positions de Trump sur la pandémie sans pour autant se mettre en conflit ouvert, ce qui serait d'ailleurs très dangereux pour eux auprès de la base où, évidemment, Trump se déchaînerait. On sait aussi même que Mitch McConnell, dans son État du Kentucky, a pris des positions diamétralement opposées à celles de Trump sur le port du masque, sur la place qu'il faut laisser à des experts comme Anthony Fauci, sur la réouverture des écoles. Et d'ailleurs, c'est cela qui m'a frappé le plus, c'est qu'au fond, Trump sent bien qu'il y a là un problème. Ce retour dans les briefings sur la pandémie, je n'ai regardé que le premier exemple, le montre quand même beaucoup plus modeste et prudent qu'il a pu l'être jusqu'ici. On a l'impression que c'est un aveu d'échec. On n'a plus le style flamboyant auquel on était habitué. Ceci dit, je suis tout à fait là aussi d'accord à ce qui a été dit. C'est quelque chose de dangereux pour lui. D'un côté, il reprend le contrôle, il retrouve la tribune magique. Mais on a vu l'usage catastrophique qu'il en avait fait, et en effet, il y a toujours le risque de le voir déraper et faire une gaffe comme celle de l'injection de détergent chez les malades pour les soigner, qui lui a quand même coûté énormément de crédibilité. Ça lui permet éventuellement, mais on voit qu'il hésite à le faire, d'y exprimer ses griefs, ce qu'il fait par ailleurs abondamment dans d'autres cas, mais cela risque aussi de le forcer à rendre des comptes sur sa gestion. Donc, je dirais que Trump lui-même comprend qu'il lui faut mettre un petit peu d'eau dans son vin, et je crois que sa position qui a bougé sur le port du masque est significative des leçons qu'il a tirées de sa baisse de popularité.
Alors, pour en revenir à cette question de changement de stratégie du président américain, on peut préciser pour nos auditeurs que Donald Trump a changé de directeur de campagne. On est passé de Brad Parscale à Bill Stepien. Ça s'est passé la semaine dernière. On dit beaucoup que Donald Trump cherche à faire un coup. Vous le disiez, les gaffes de Donald Trump sont assez légion, mais tout de même aussi chez Biden, les choses ne sont pas aussi, ou en tout cas peuvent ressembler aux gaffes de Trump, mais sur un autre registre. Il y a la perspective des débats télévisés. Alors, on dit que Trump cherche à faire un coup, peut-être le vaccin contre la pandémie. En tout cas, Philippe Golub, est-ce que cette reconnaissance par Trump de la gravité de la pandémie peut changer quelque chose dans la campagne?
Alors, tout dépendra évidemment de la suite de cette reconnaissance à la fois symbolique, de marque et verbale de sa part. Que fera l'État fédéral? Et je crois qu'une question absolument essentielle qui va se poser dans les quelques jours à venir, c'est dans les 9 jours à venir, c'est la décision qui sera prise par l'État fédéral, donc par la Maison-Blanche et les 2 chambres du Congrès, sur la continuation du programme d'aide aux chômeurs américains. Jusqu'ici, les républicains et les démocrates avaient négocié un plan de relance qui permettait à tous les chômeurs aux États-Unis, nouveaux chômeurs comme anciens, de recevoir $600 par semaine de plus pendant la période de crise et de pandémie, ce qui a augmenté très significativement leurs revenus, mais ce qui aussi a permis à l'économie américaine de se maintenir à flot, puisque ces paiements fédéraux ont injecté des milliards de dollars dans l'économie chaque semaine, de l'argent qui allait aux propriétaires, aux petits commerces, aux épiceries, aux détaillants, et à toutes autres entreprises dont les consommateurs font vivre et font l'activité de tous les jours. Donc, d'ici 9 jours, ce programme va se terminer si la Chambre des représentants et la Maison-Blanche ne s'accorde pas, et le Sénat ne s'accorde pas, sur un renouvellement du plan. En cas de non-renouvellement du plan, ce sont des dizaines de millions de personnes qui vont se retrouver très brutalement dans une situation de pauvreté plus ou moins grande selon les cas, mais très grande selon de très nombreux cas. Et là, il y aura un choc à la fois politique et économique si ce n'est pas fait. Et on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a une lutte très forte, très âpre au sein du Parti républicain, sur les conditions d'attribution de ces aides. Donc je pense que la question de la reconnaissance par Trump de la gravité de la crise sanitaire, on verra dans les faits si cela se traduit par des actes politiques de reconnaissance réelle des effets économiques et sociaux que cela entraîne. Le risque aujourd'hui, c'est qu'en cas de non-renouvellement, qui est non seulement la pauvreté, comme je l'ai dit, mais une contraction très forte du produit intérieur brut, les estimations des économistes aujourd'hui est que le PIB américain décroîtrait de 2% de plus fin 2020 et qu'il y aurait 1,7 million d'emplois au moins, en moins à l'échelle nationale si le plan n'est pas renouvelé. Donc on verra, c'est dans les actes que l'on verra s'il y a véritablement reconnaissance ou non de l'urgence à la fois économique et sociale et sanitaire.
RFI, l'émission géopolitique, nous vous retrouvons Philippe Golub et Pierre Mélandry après le journal. À tout de suite.
Anticiper. Géopolitique. Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur la campagne américaine. Nous retrouvons nos invités par téléphone. Philippe Golu, professeur de relations internationales à l'Université américaine de Paris, et Pierre Mélandry, historien et professeur des universités. Nous avons terminé la première partie de l'émission avec ce que vous évoquiez, Philippe Golu, c'est la décision qui doit être prise dans les jours prochains, à la fois par la Chambre des représentants et le Sénat, sur la continuation du programme d'aide rendu nécessaire par la crise du coronavirus. Pierre Mélandry, une autre question très importante et au cœur de la campagne américaine aujourd'hui, à peine 3 mois du 3 novembre prochain, jour de l'élection, c'est la question raciale. On a vu Donald Trump tenter de calmer le jeu sur le front du coronavirus. Il y a quelques jours, il reconnaissait la gravité de la pandémie. Et on le voit parallèlement jouer la carte de la peur pour mobiliser son électorat sur les questions raciale.
Oui, évidemment, parce qu'au fond, on avait espéré faire campagne sur l'économie. Et d'ailleurs, ça lui réussissait bien au début de l'année, mais avec la pandémie, avec l'effondrement de l'économie, avec une trentaine de millions de chômeurs, cela est encore difficile pour lui, même s'il garde un très léger avantage sur ce plan, sur Biden, 47-45%. Du coup, évidemment, il lui a fallu trouver un autre thème. Alors, un thème évidemment classique chez lui, qu'il avait d'ailleurs déjà retenu pour la campagne, bien évidemment, c'est dénoncer l'autre, c'est-à-dire les immigrants. Mais il vient maintenant de dénoncer d'autres Américains. Au fond, un problème pour lui a été qu'il espérait pouvoir dénoncer un candidat démocrate, socialiste, extrémiste. Il est difficile de coller cette étiquette sur Biden, mais il a trouvé une autre formule, c'est dénoncer des démocrates, socialistes, extrémistes qui, en quelque sorte, contrôleraient le parti. Et ceci à propos, évidemment, des grandes manifestations qui ont suivi le meurtre de George Floyd, la prise de conscience du racisme systémique qui existe aux États-Unis, la volonté de corriger les injustices. Et on voit maintenant comment ce président, qui à une époque quand même avait pu se vanter d'avoir fait voter une loi en faveur de la réforme de la justice criminelle, désormais se déchaîne contre son gendre Kouchner qui l'a entraîné dans cette voie somme toute progressiste et se veut maintenant absolument un président de la loi et de l'ordre d'une façon quasi caricaturale. On voit bien comment, par exemple à Portland, il a envoyé les troupes fédérales pour, entre guillemets, rétablir l'ordre dans des manifestations qui, sans doute, il faut toujours nuancer, comportent un certain nombre de dérives violentes, mais qui sont largement pacifiques. Et ceci, évidemment, contre l'avis du maire de la ville, mais c'est bien là son projet. Son projet, c'est de jouer sur un cycle provocation-répression et, d'une certaine façon, essayer d'associer les maires démocrates au chaos qu'ils dénonce rhétoriquement dans un certain nombre de villes. Il semble qu'il veuille faire la même chose pour Chicago ou pour Kansas City. Alors le problème est quand même le suivant. D'un côté, beaucoup de gens considèrent que ce sont ces initiatives qui radicalisent les protestations. Bref, il entretient la flamme, mais c'est peut-être au fond son objectif et sa stratégie. L'autre problème, c'est est-ce que l'opinion accrochera. Jusqu'ici, la majorité silencieuse semble plutôt pencher du côté de nouveaux efforts pour la justice raciale ou encore de nouveaux efforts pour la lutte contre le réchauffement climatique. Bref, Trump n'a plus guère le choix et il joue d'une façon qu'on peut pas dire tout à fait désespérée, mais enfin un peu en dernier recours, la carte de la guerre culturelle dans un effort pour mobiliser ses troupes et peut-être détacher une partie de l'électorat centriste de parti démocrate. Mais rien ne prouve que cela puisse fonctionner. Tout dépendra, là encore, la plus grande prudence et la plus grande modestie s'impose des événements qui s'écouleront d'ici au 3 novembre.
Parce que, effectivement, c'était important de le préciser, les manifestations réclamant l'égalité des droits et la fin des violences policières ne sont pas terminées aux États-Unis. Elles continuent, comme vous le disiez, Pierre Mélandry, dans plusieurs villes. Et d'ailleurs, elles n'ont jamais cessé depuis le meurtre de George Floyd par les policiers de Minneapolis qui a embrasé les plus grandes villes du pays. Et un sondage publié en fin de semaine pour NBC News et le Wall Street Journal montre un virage dans l'opinion publique américaine. 56% des Américains qui jugent désormais que leur société est raciste et que ce racisme gangrène les institutions. Autre sujet de la campagne, la menace chinoise, Philippe Golub, qui est vraiment le sujet clé de la présidentielle 2020. Alors, en 2016, il y a 4 ans, Donald Trump s'était présenté comme le candidat de la rupture. Il s'est évertué à déconstruire l'héritage de ses prédécesseurs. Sa conviction est que les États-Unis sont floués par leurs alliés, que les institutions multilatérales desservent les intérêts américains. Est-ce qu'on pourra jamais revenir en arrière, Philippe Golub ?
Alors d'abord, une précision ou une précaution analytique pour dire que bien qu'il y ait eu des éléments de rupture incontestablement au niveau de, par exemple, la gestion des relations multilatérales, la gestion des organisations internationales, le rapport à l'Europe et les autres questions qui ont trait à la coopération institutionnalisée, sur certains grands dossiers, les ruptures sont beaucoup moins fortes qu'elles ne paraissent. Et c'est le cas en particulier de la Chine, où il y a des éléments de continuité importants entre l'administration Obama et l'administration Trump, bien que, évidemment, l'idiome politique dans lequel cette politique se mène est assez différent. C'est-à-dire que sous Trump, c'est « Sturm und Drang », on est dans le drame verbal permanent. Sous Obama, c'était plus discret, mais l'orientation fondamentale est la même. C'est-à-dire que depuis Obama, depuis 2011, depuis l'annonce par Obama de son pivot vers l'Asie et de l'article de Hillary Clinton dans Foreign Affairs sur la même question intitulé « America's Pacific Century, le siècle pacifique américain », les États-Unis estiment depuis ce moment-là que la priorité stratégique des États-Unis doit être de limiter les ambitions chinoises, sinon de contenir la Chine directement, comme l'ont fait les États-Unis contre l'Union soviétique pendant la guerre froide. Sous Trump, on a vu des efforts plus intenses, plus ouverts, plus affirmés d'endiguement que sous Obama, mais si on regarde les déclarations des différents dirigeants démocrates au Sénat ou dans la Chambre des représentants, je pense à Chuck Schumer par exemple au Sénat, mais bien d'autres, ils sont très nombreux, les démocrates sont sur des positions qui sont quasiment plus belliqueuses que celle de Donald Trump sur cette question, et il faut s'attendre dans l'un cas comme dans l'autre à une intensification de la très grande rivalité, de l'intense rivalité qui s'est constituée entre la Chine et les États-Unis, avec des implications importantes pour le monde tout entier.
Pierre Mélandry, vous partagez ?
Oui, tout à fait. On va vers une nouvelle forme de guerre froide entre deux superpuissances qui, en quelque sorte, cherchent à imposer leur hégémonie sur le monde. D'ailleurs, le problème, n'est-ce pas, de la Chine pour les États-Unis, c'est l'émergence potentielle d'un autre hégémon régional. Pour le moment, il n'y a qu'un véritable hégémon régional. On n'en voit pas en Europe, on n'en voit pas au Moyen-Orient. On en voit un en Amérique, dans le continent américain, c'est les États-Unis. Et on voit émerger un nouvel hégémon dans l'Asie orientale. Et du coup, effectivement, pour les États-Unis, depuis les années Obama, où c'est le tournant, n'est-ce pas, c'est la crise 2007-2008, et l'arrivée ensuite en 2012-2013 de Xi Jinping, qui dit que le temps n'est plus à la stratégie de Deng Xiaoping, qui expliquait que les Chinois devaient cacher leurs forces et gagner du temps. Là, désormais, la Chine s'empresse de s'affirmer comme grande puissance, et on voit effectivement le renversement avec le pivot d'Obama qu'évoquait tout à l'heure Philippe. De ce point de vue-là, cette nouvelle réalité a été institutionnalisée en document de l'époque Trump, la National Security Strategy et la National Defense Strategy, qui a élevé la rivalité entre grandes puissances au-dessus de la lutte contre le terrorisme. Là, le tournant a été pris. Le seul problème de Trump, évidemment, ça a été sa stratégie là-dessus. Première chose, on peut considérer comme une erreur. Obama avait imaginer le Trans-Pacific Partnership, le TPP, comme un moyen, en quelque sorte, d'isoler la Chine et de la contraindre, au regard de l'ampleur des échanges que couvrirait cet organisme, de la contraindre à accepter les normes que cet organisme fixerait. Or, un premier geste de Trump a été de sortir les États-Unis du TPP. Ensuite, il a un petit peu hésité à cause de la Corée du Sud, car c'est ça son problème. Aller de front contre la Chine va à l'encontre de notre impératif, c'est obtenir la coopération de la Chine sur le problème nucléaire nord-coréen. On a vu d'ailleurs que dans l'année 2017, il a un petit peu hésité. Enfin, une autre erreur qu'a fait Trump dans les rapports avec la Chine, elle a été dénoncée par ses collaborateurs, ça a d'ailleurs été probablement l'occasion du départ de Gary Cohn, ça a été de vouloir imposer des tarifs sur l'acier et l'aluminium à ses alliés, avant même de les avoir mobilisés contre la Chine, en sorte que les États-Unis sont partis dans cette offensive contre la Chine, un petit peu isolés, au lieu de profiter de l'appui qui était possible sans doute de recueillir de leurs alliés. Ceci dit, il est vrai que les démocrates étaient depuis longtemps, pour des raisons strictement alors commerciales, beaucoup plus durs à l'encontre de la Chine, parce qu'après tout, qui a souffert le plus de la montée en puissance de la Chine au départ ? Ça a été les salariés américains qui ont vu leurs emplois délocalisés, qui ont vu les usines fermées et qui représentaient ces salariés, c'était les syndicats qui étaient puissants au sein du Parti démocrate et qui cherchaient à se faire entendre. Et c'est là tout le problème de l'évolution des partis. Il faut se rappeler quand même que faire entrer la Chine dans l'OMC et lui permettre ainsi de s'épanouir économiquement d'une façon presque sans pareil dans l'histoire a été une décision délibérée et même mûrement pesée d'un autre démocrate qui était Bill Clinton.
Alors c'était justement ce que vous évoquiez, Pierre Mélandry, l'obsession de la lutte contre le terrorisme qui a empêché les États-Unis de voir la progression chinoise. Philippe Golub, j'ai senti que vous souhaitiez intervenir.
Oui, je voulais dire que nous sommes dans une phase de découplage graduel mais réel des économies américaines et chinoises, délibérément effectuées par l'entremise de mesures de sécurité imposées aux firmes de haute technologie, en particulier les télécommunications, et ce découplage aura des effets des deux côtés et des effets internationaux, puisque le droit américain a un caractère extraterritorial. Et par exemple, les processeurs, les microprocesseurs qui sont vendus à la Chine par des firmes taïwanaises ou allemandes ou coréennes, etc., utilisent parfois des robots américains, des composants américains. Si les nouvelles mesures de sanctions, et elles vont venir, inévitablement venir, sont mises en place impliquant la non-utilisation de toute technologie américaine dans les exportations vers la Chine, nous allons vers un découplage et donc une restructuration de l'économie mondiale qui implique une forme de déglobalisation effectuée pour les impératifs de sécurité. On va vers une configuration internationale parce qu'on ne voit pas les forces opposées s'y opposer de façon ferme. Et le pouvoir, les questions du pouvoir et de questions géostratégiques l'emporteraient sur le profit. Les firmes transnationales sont aujourd'hui en train de se délocaliser progressivement de Chine pour aller vers l'Inde, le Vietnam et d'autres pays qui sont soit alignés sur les États-Unis, soit relativement proches des États-Unis.
Ce qu'on peut préciser, effectivement, c'est que beaucoup de pays asiatiques qui se sont soumis aux pressions de la Chine ces dernières années seraient finalement là aussi assez contents de voir l'Amérique plus visible. Pierre Mélandry, la relation avec la Chine, c'est une chose. L'autre chose, c'est le rôle des États-Unis. On sait que pour Joe Biden, la politique étrangère, c'est un peu sa zone de confort. Il est convaincu que les démocraties du monde souhaitent que l'Amérique retrouve sa place dans le rôle qui était le sien avant l'élection de Trump, rôle de leader et protecteur. Est-ce que on peut voir un changement dans le cas où Joe Biden serait élu le 3 novembre prochain ?
Écoutez, alors pour revenir sur la Chine très brièvement, je crois qu'il y a une forte différence dans les milieux économiques américains entre les industriels qui, effectivement, comme le disait Philippe, souhaitent prendre leur distance avec la Chine, sauf certains qui redoutent que cette prise de distance ne conduise la Chine à développer des technologies où elle serait totalement indépendante, et les financiers qui, en revanche, ont beaucoup profité de les délocalisations, parce que l'argent réalisé par la Chine sur ses ventes aux États-Unis a très souvent vraiment été replacé à Wall Street. Et là, il y a vraiment une différence qu'on voit dans l'administration Trump entre les Navarro Lighthizer d'un côté et de l'autre Mnuchin qui représente, lui, les grandes banques et qui plaide toujours pour la modération dans les rapports avec Pékin. Alors, pour revenir à votre question, je dirais que Biden est dans une situation, je dirais, intermédiaire. D'un côté, il est bien obligé de tenir compte de ce dont Obama déjà avait pris conscience, c'est que le pays n'est plus prêt à se lancer dans des interventions étrangères pour rétablir la justice. Il y a une sorte de lassitude de l'Empire qui est forte. Et d'ailleurs, un des thèmes des démocrates, c'est recours à la force militaire en dernier recours. Autre chose, même son projet économique qu'il a énoncé il y a quelques jours est un projet du type America First, qui consiste à relocaliser le plus possible un certain nombre d'industries aux États-Unis et à renforcer l'application du Buy American. En revanche, là où Biden revient dans la norme à laquelle nous attendons, c'est qu'évidemment, il est favorable au retour, et c'est quand même une chose essentielle. 4 ans de Trump rendraient toute chance d'accomplir les objectifs du traité de Paris sur le réchauffement climatique totalement utopique. Lui veut revenir évidemment dans l'accord de Paris. Il veut revenir dans la mesure du possible dans l'accord nucléaire avec l'Iran. Il veut surtout évidemment retrouver des relations apaisées avec les alliés. Mais il est clair que l'Amérique post-Trump ne sera pas l'Amérique anti-Trump, ou en tout cas ressemblera étrangement à l'Amérique Obama, qui déjà considérait que le nation building begins at home, qu'il faut commencer par s'occuper de la santé économique et sociale des États-Unis avant de se lancer dans ce qu'il considérait comme des opérations stupides, et il pensait en particulier à des interventions au Moyen-Orient. On sait comment il avait finalement renoncé à appliquer sa ligne rouge en Syrie en 2013.
Alors, quelques mots sur la relation transatlantique, Philippe Golub. On a vu récemment le Royaume-Uni, puisqu'on parlait de la Chine, le Royaume-Uni refuser la 5G avec Huawei. La France est en train de faire la même chose. Est-ce que tout cela peut éventuellement contribuer à une amélioration de la relation transatlantique, sans dire que c'est pour cela que ni le Royaume-Uni ni la France ne le font?
Dans le cas d'une présidence Biden, on peut s'attendre à une amélioration des relations transatlantiques, y compris sur les grandes questions stratégiques telles que la montée en puissance de la Chine. Mais les Européens ne vont pas, je pense, revenir à l'idée quelque peu utopique maintenant d'une relation parfaitement apaisée avec les États-Unis, comme ce fut le cas lors des années de guerre froide entre l'Union soviétique et les États-Unis. D'ailleurs, ces années n'ont jamais été parfaitement apaisées non plus. Rappelons-nous que De Gaulle, en France, avait quelques réticences par rapport à la projection de la puissance américaine en Europe. Mais il y aura plus de coopération transatlantique sous Biden que sous Trump, c'est certain. Et la Chine représente pour l'Europe aujourd'hui un problème beaucoup plus vaste qu'il y a quelques années. Et les Européens ont pris conscience, semble-t-il, à la fois du problème que pose la pénétration technologique chinoise en Europe, le rachat par la Chine des grandes firmes de technologies européennes, mais aussi la pression géopolitique qu'exerce la Chine sur toute une série de dossiers où les Européens sont présents. Donc c'est possiblement un facteur de rapprochement, mais pas d'unification.
En tout cas, et pour conclure rapidement, Pierre Mélandry, donc la menace chinoise, finalement sujet clé de la présidentielle 2020.
Ah oui, d'autant plus que les sénateurs républicains ou candidats républicains au Sénat, qui, on l'a vu tout à l'heure, se sentent un petit peu en porte-à-faux avec le recul de la popularité de Trump, vont chercher certainement à jouer de la peur de la Chine aux États-Unis en expliquant que Biden a toujours été mou sur cette question pour essayer de refaire les voix qui éventuellement leur manquent. Pour les républicains, effectivement, la grande priorité, c'est de garder au moins le Sénat pour pouvoir bloquer ce qui pourrait autrement être un grand programme réformiste de Biden qui changerait la donne aux États-Unis. Inversement, s'il réussissait à le bloquer, eh bien, on risque d'avoir en 2022 un électorat démocrate frustré qui ouvrirait à nouveau la voie à une reprise par les Républicains, peut-être même de la Chambre.
Alors tout cela, nous en reparlerons. Merci Pierre Mélandry, je rappelle que vous êtes historien et professeur des universités. Merci aussi Philippe Gelu, professeur de relations internationales à l'Université américaine de Paris. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Yael Co et Nathalie Laporte.